Les Audacieux sur la première.
Ingrid, à quel âge avez-vous changé de vie?
Alors, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais je pense que c'est arrivé vers mes 21 ans.
Est-ce que cette décision a été le fruit d'une longue maturation?
C'était pas une décision, c'était un mouvement qui s'est passé à travers moi. Un mouvement de survie, peut-être.
Combien de temps vous ont pris les changements?
Alors, certains très rapides et certains ne sont pas encore terminés.
Est-ce que ça a été difficile?
Oui et non.
Est-ce qu'on vous a soutenu?
Oui et non.
Avez-vous eu peur?
Oui et non.
Décidément, est-ce que ça vous a changé?
Oui et non.
Est-ce que vous avez une nostalgie de la vie d'avant?
Pas tout à fait. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait et j'aimerais encore plus tout ce que je vais faire.
Est-ce que c'est mieux qu'avant?
Je fais mon chemin.
Les Audacieux. Florence Farion, David Golan.
Les audacieux nous entraînent parfois dans des univers inconnus. Et pour tout vous dire, celui que me proposait Ingrid était une sorte de nébuleuse. Ingrid est chamane. Alors quand elle m'a proposé de venir la voir durant un week-end, je me suis réjouie. Elle m'invitait à un week-end chamanique, 6 participants à la montagne dans un chalet réunis durant 2 jours. On peut avoir toutes sortes de préjugés autour du chamanisme et je me réjouissais d'y assister, mais les participants ne l'ont pas souhaité. Ingrid a donc enregistré quelques extraits sonores que nous allons entendre pour nous mettre quelque peu dans le bain. Et je suis arrivée un dimanche matin, après le stage, et pour certains sonnait déjà l'heure du départ, d'autres sont restés, pour prolonger. L'ambiance était chargée de rires, de pleurs, d'émotions, tout ça à fleur de peau. Ils avaient tous fait un drôle de voyage, et j'ai tenté de comprendre ce qu'ils avaient vécu.
37, on part maintenant, on descend.
Okay.
Ça vous va? Je vous amène? Allez, let's go.
Vous avez envie de dire quelque chose?
Je cherchais quoi? Je cherchais un petit peu débloquer des émotions. C'était un travail très très profond. Et ça continue pendant des semaines, des mois. Mais ça continue.
Donc vous n'êtes pas la même à l'arrivée qu'à la sortie?
Ah non.
Il n'y a pas de confort sur le moment, mais il viendra après.
Parfois, pas cette fois.
Pas cette fois.
Pas cette fois.
Et là, il faut vous mettre vos chaussures parce que vous allez rater votre train.
Merci.
Salut, ma chérie. Merci beaucoup. Merci.
Prends bien soin de toi. Oh.
Merci. Merci de toi.
Salut.
Arrête. Arrête.
Il y a beaucoup d'émotions qui sortent.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Voilà.
Ciao.
Merci. Ciao.
Vous étiez ensemble depuis quand, en fait?
Depuis vendredi. Voilà. C'était un travail qui a commencé vendredi et qui vient de finir maintenant, donc dimanche après-midi. Donc c'est un long processus quand même. Ça, c'est vraiment une cérémonie particulière. Je l'ai nommé miroir de l'âme parce que c'est vraiment un travail qui est profond. Puis les gens doivent faire face à qui ils sont. Donc il y a des aspects très cool et d'autres pas du tout. Et voilà, donc ouais, c'est toujours très différent d'une fois sur l'autre. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être spirituel, ça peut être tout à la fois. Parce que c'est de toute manière une expérience condensée de vie. Et donc, bah, c'est un apprentissage et ça permet de le faire dans un espace sécurisé et d'apprendre pour plus tard, en fait, des choses et comment se positionner à l'intérieur de soi, comment prendre des choses, voilà, avec plus de facilité.
J'étais pas avec vous cette nuit. Vous auriez pu imaginer qu'effectivement, je sois là. Vous aviez imaginé que je sois là. C'était quand même étrange d'avoir une présence autre que celle des participants dans cette énergie-là.
Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que je fais mon travail comme il doit se faire. Donc pour moi, c'est tout à fait envisageable. Après, pour les participants, c'est autre chose. Parce que comme ils sont dans cette intense connexion avec eux-mêmes et qu'ils s'ouvrent, le fait qu'il y ait une personne qui ne vive pas ça, alors pour eux, c'était ça. On en a discuté, hein. Justement, je trouvais que c'était la bonne occasion de discuter de cette position. C'est des gens qui sont ouverts et tout, mais c'est vrai que quand on va travailler profondément et qu'on va vraiment à l'intérieur de soi et qu'on va voir des choses qui sont noires, des choses qui sont désagréables, comme des choses qui sont transcendantes, c'est pas évident quand vous avez une personne qui est, entre guillemets, dans la normalité à côté, parce que c'est vraiment se dévoiler.
Est-ce que vous avez chanté donc cette nuit?
Oui, en fait, deux nuits de chant. De chant ou d'instrument. Et donc, effectivement, c'est les chants qui vont guider le travail. Donc, ça, on retrouve aussi dans beaucoup de traditions chamaniques le pouvoir de la vibration. Donc, la vibration vient chercher ce qu'il faut, ou ce qui est en résistance, ou ce qui est à déployer, et donc leur permet de faire ce travail-là. Donc, c'est comme ça que le chaman guide les esprits et les patients.
Au grand bison, tous les ancêtres viennent à nous pour nous guérir.
Sur le moment, avec les énergies qui se présentent. Donc, bon, des fois, il y a des bugs, je veux dire, dans les paroles ou comme ça, parce que c'est vraiment très inspiré. Et là, donc, par exemple, c'est la notion de lignée ou d'ancêtre. Dans ma vision, ça correspond au grand-père bison. Alors ça, c'est plus dans les traditions amérindiennes qu'on peut trouver cet esprit, comme si c'est celui qui est le gardien de la mémoire de l'humanité. Et donc, en lien avec les ancêtres et les lignées, ça permet pour certains qui ont un nettoyage à faire là-dessus, donc c'est une force de nettoyage pour ça, spécifiquement. Après, je n'ai pas forcément de retour direct sur certains des champs, hein, mais des fois, il y a vraiment des convergences très intéressantes avec les participants.
Il y a plein de choses dans cette pièce, Ingrid. Hein?
Oui.
Des choses identifiables, ouais, à mes yeux, et d'autres qui le sont moins. Ouais. Tout ça, c'est des objets qui reviennent de vos voyages, nombreux voyages.
Alors évidemment, il y a un certain nombre de tambours. Après, il y a des hoches, c'est aussi un moyen de pouvoir entrer en état modifié de conscience.
Ça, ce sont des herbes sèches, en fait, des sortes de bouquets d'herbes sèches.
C'est ça. Alors, j'ai entendu une fois quelqu'un dire que c'était une espèce de balai énergétique. j'aime bien ce terme parce qu'effectivement, il sert à nettoyer certaines énergies. Et on peut aussi l'utiliser pour induire un état modifié de conscience. Alors, cet instrument, il est plutôt originaire de l'Amazonie et c'est une plante qui s'appelle une chacapa. Et donc, l'instrument porte le nom de la plante. Ça s'appelle une chacapa. Ça donne ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment magique. Ouais, c'est vraiment un son très agréable et très doux.
Les plumes ?
Les plumes, oui. Alors les plumes, en fait, souvent, en chamanisme, on peut utiliser ça comme des messages. Par exemple, si vous cherchez un signe ou quelque chose comme ça, vous vous promenez dans la nature et vous pouvez recevoir des plumes. Alors là, il y en a qui viennent de plein d'endroits différents. Ça, c'est une plume d'un papang qui est considéré comme étant l'aigle de la Réunion. Donc voilà.
Parce que c'est plein, le chamanisme en fait est plein de, oui, de rituels et de choses qui ajoutent sans doute à ce côté un peu, qu'est-ce qu'on va dire, un peu obscur, un peu mystérieux, ouais, un peu magique.
Oui, exactement. Le chamanisme, il y a vraiment une forme qui est, je dirais, importante comme signe de reconnaissance, d'avoir des habits de cérémonie, d'avoir certains objets comme voilà, des plumes. Mais pour le chaman, en fait, ils n'ont pas tellement une importance en tant que tel. C'est parce qu'ils représentent quelque chose. Ils représentent un message, ils représentent une force, ils représentent un pouvoir ou ils représentent un esprit. Donc c'est plus un symbole, en fait, qu'un objet de dévotion. Ça, il faut vraiment faire aussi cette distinction-là. Donc la plupart des choses qui sont sur cet autel ont un sens pour moi.
C'est un parcours qui allège. En tout cas, pour moi, ça m'a allégé de certaines choses, fait aider à prendre conscience, c'est se réveiller, quoi. C'est waouh, j'ai envie de dire, quoi. J'avais besoin de comprendre des trucs dans ma vie. J'avais besoin de débloquer certaines situations. Avec ces deux jours, plus tout ce que j'ai entrepris déjà depuis une année avec Ingrid, ça me fait bouger, quoi.
Et votre voisine? Mais j'ai beaucoup d'émotions qui sortent à ce moment. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si j'ai un magnifique vase, de l'eau, des fleurs qui datent de longtemps en arrière, et que j'ai jamais changé l'eau, j'ai jamais pensé à... Donc je peux pas mettre de nouvelles fleurs dedans, c'est de l'eau qui stagne. Et j'ai l'impression qu'en fait, il suffit, c'est un sacré travail, mais en jetant l'eau et en mettant des nouvelles fleurs, on arrive à avancer sans forcément aller rechercher la psy, papa, maman, ces trucs-là, que j'ai bien connus. Et en fait, en psy, j'ai jamais trouvé non plus de solution. C'est vraiment quelque chose d'autre. On enlève des couches, on enlève un manteau et puis on en met un autre. Et en ce moment, je suis en train de digérer en fait, des informations que j'ai reçues. C'est un dialogue envers moi-même que je ne pourrais même pas expliquer parce que ça m'appartient. Et c'est quelque chose qui va continuer maintenant et qui me permet d'avancer.
Vous aviez le trac avant de venir ?
Oui. Enfin, ce n'est pas le trac, c'est différent. C'est dire que je vais à la rencontre de moi-même. Donc, s'il y a des choses de moi que je ne veux pas savoir, je sais qu'elles vont être là, je ne peux pas me mentir. Et donc, on n'est jamais sûr de ce qu'on se raconte ou pas.
Vous avez mis un moment, vous, avant d'accepter ou d'avoir envie de rentrer dans ce monde du chamanisme ?
En ce qui me concerne, avec une éducation scientifique, cartésienne, hautes études, hautes écoles, grosse tête, en fait, on se coupe de pas mal de choses. Et moi, la rencontre avec Ingrid, ça a été en fait une remise en question de ce que je suis ou de ce que j'étais à l'époque, avec beaucoup de peur de me dire, mais est-ce que je vais changer ? Est-ce que je vais aller vers cette démarche, ce processus qui me paraissait à l'opposé complète de ce que j'avais appris et de ce qu'on m'avait enseigné ? Parce qu'il y a des tabous, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous apprend, surtout dans le processus scientifique.
Et puis que vous n'étiez pas inconfortable dans cette...
Et je me sentais complètement bien.
Sur cette terre posée.
Sous mon petit vernis, en fait, j'allais pas forcément bien, mais j'étais parfaitement adapté. Adapté socialement, adapté au niveau du travail, sauf que je bossais 95 heures par semaine, je trouvais ça normal, que je faisais plus autant de sport que je voulais, j'étais coupé de la nature alors que j'adore la nature, je me sentais un peu de plus en plus coupé de ça.
Allez. On a tous la nostalgie, finalement, de ce qu'on est. Simplement, ici, on cherche, enfin moi, ce que je cherche, c'est qu'on puisse l'intégrer d'une manière qui soit plus saine et cohérente. Je pense que je dois avoir un sac de marque dans mon armoire. C'est pas un problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on est dans le fond, où le fond est présent, la forme, elle est là ou elle n'est pas là. Quand je fais mes retraites de 6 mois dans la forêt, où je suis habillée en...
Vous ne connaissez pas votre sac de marque, là, à ce moment-là.
Non, mais j'en avais acheté un au retour, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne me pose aucun problème, ça n'enlève pas de ma valeur. Et par contre, quand je travaille dans... Parce que je fais d'autres... J'ai d'autres aspects aussi dans mon activité. En fait, je suis des fois une chamane déguisée. Donc, je travaille aussi en entreprise, sur de la communication, etc. Là, j'ai justement cette capacité de m'adapter à la forme sans y perdre rien du tout. Et là, ça me permet d'être en communication avec les gens qui fonctionnent sur ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi d'une grande sagesse et d'une grande intelligence. Voilà, parce que ça permet toujours d'aller chercher les gens là où ils en sont. Tout le monde est merveilleux, comme je le disais tout à l'heure, mais des fois, on l'exprime différemment.
Simplicité et pragmatisme.
L'histoire ne dit pas comment les participants continuent sur leur chemin de découverte, s'ils ont tiré les bénéfices de ce week-end chamanique, mais une chose est certaine, Ingrid leur a permis de remettre en question profondément qui ils sont. Elle a aussi vécu de sacrées remises en question. Son point de départ, on va le découvrir dans quelques minutes.
Les audacieux sur la première.
Je fais des rêves cabossés par des souvenirs plutôt musclés. Je ferai la grève de la vie tant que mon rêve ne sera pas tari. Je suis pas oxy. Je suis barbu. Je suis pas foutu. C'est bizarre. Je me souviens de tout, de mes histoires d'oiseaux un peu fous. C'est monté comme un film de Godard. Mise bout à bout, la vie est un peu une galerie d'art. Scotché ici, mais l'enfant que je suis rejaillit. Je suis pas flappy. J'ai retrouvé des joujoux que j'avais dû planquer sous mon lit. Je me souviens de tout, de mes histoires d'oiseaux un peu fous. Mais ça balance comme un ballet de béja. Mise bout à bout, la vie est un peu une galerie d'art. Une galerie d'art.
Mémoire vive. C'était Féloche.
Les audacieux reviennent après un détour par les routes.
Infotrafic RTS. Soyez très prudents si vous vous situez sur l'autoroute entre Neuchâtel et Yverdon. On signale des objets sur la voie de circulation entre Yverdon-Ouest et l'échangeur d'Yverdon en direction de Lausanne.
Ils ont changé de vie, par choix ou par obligation. Ils se racontent chaque après-midi de l'été, sur la première.
Ingrid, 10 mots de la vie d'avant.
Subir, contrainte, moule, dogme, conformisme, je ne sais pas combien j'en suis. Étude, mental, analyse.
Ingrid a parcouru le monde pour comprendre le chamanisme, mu par une curiosité insatiable. C'est une tête bien faite, un esprit vif et assoiffé de savoir. Et comme tous les audacieux, après l'avoir découverte dans sa vie d'aujourd'hui, elle nous raconte sa vie d'avant.
Voilà, je crois que je suis comme les chats. Moi, j'ai eu tellement de vies. Alors, ma toute première vie professionnelle, archéologue. J'ai fait toutes les études universitaires, je suis donc diplômée. Et puis, comme j'ai un cerveau qui a soif d'apprendre, je ne me suis pas contentée de ça. Donc, en plus, j'ai fait des études en lettres parce que l'archéologie préhistorique, qui était ma branche de prédilection, c'est en sciences. Donc, j'ai fait aussi de l'égyptologie et de l'archéologie gallo-romaine. Mm-hmm. Donc, voilà, j'avais vraiment une vision à travers les âges. Et après, j'ai eu la chance de trouver... Enfin, même durant mes études, j'ai eu un poste de directrice adjointe de chantier sur le chantier de la Transjurane, près de Port-en-Truy. Donc, j'ai bossé là-bas plusieurs années.
Avec bonheur.
Avec bonheur, pas toujours avec facilité, parce qu'il faut s'adapter au climat, mais avec bonheur, oui, pendant quelques années. Et puis à un moment donné, c'est comme une évidence, j'avais fait un peu le tour de la question, mais j'avais envie de passer à autre chose. Mais en fait, je me suis engagée à la police scientifique. Donc voilà, archéologue, police scientifique. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais c'est quoi le lien? Alors j'ai dit, j'ai continué avec les cadavres, sauf qu'ils étaient un peu plus frais, quoi. J'aime bien le dire comme ça, en rigolant, bien entendu. Vous cherchez des traces pour reconstituer la vie d'avant. Et sur une scène de crime, c'est la même chose, sauf que vous essayez de découvrir si c'était le colonel Moutarde dans la cuisine.
Ou dans la bibliothèque.
Donc, j'ai refait l'école à ce moment-là de police judiciaire. Pour les entretiens, j'avais déjà passé la spécialisation pour la police scientifique. Donc, je me suis transformée un peu en cow-boy citadin pendant quelques années.
Là, je vous pose la même question, avec bonheur ?
Toujours avec bonheur et encore plus de bonheur, je dirais. C'était vraiment un travail que j'ai trouvé... très enrichissant, très humain, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de la police. C'est très social. Là, vous avez accès, enfin, en tout cas particulièrement dans le domaine où j'étais, j'ai vraiment eu accès à la vie des gens, à leur fragilité, parce que je venais toujours dans des cas vraiment difficiles pour eux, de crimes ou de délits graves. En fait, c'est très intéressant parce que il y a le côté scientifique, il y a le côté technique, et puis quand vous arrivez toute seule à 22h chez une petite dame qui s'est fait voler tous ses bijoux et que c'était les derniers souvenirs de son mari, et vous êtes là toute seule avec votre mallette pour venir chercher des traces, mais en fait... avant toute chose, je crois que c'est la rencontre entre humains. Et donc, assez vite, ça m'a très intéressée, cette partie-là. Puis, j'ai choisi de me former encore à côté pour être encore plus efficace quand je voyais ces personnes qui étaient en détresse ou dans des situations vraiment très difficiles et très particulières de leur vie. Et je trouvais important qu'il y ait quelque chose de plus que juste je viens prendre trois traces et puis je vous laisse avec votre problème.
Vous avez fait ce métier pendant combien de temps, Ingrid ?
6 ans, je crois. J'ai même gradé et tout.
On dit parfois que la police est un métier tellement difficile qu'on vient... Ça vient vous ternir l'image de l'humain. Enfin, je veux dire, c'est quand même les côtés sombres de l'humain que vous côtoyez au quotidien. Ça vous a touché aussi, tout ça ?
Oui, je dirais pas que ça a terni ça avec ce regard du chaman, puisque j'étais quand même déjà sur cette voie-là. Ce que je vois surtout, c'est des gens qui sont impuissants à vivre autrement. Si on prend par exemple les auteurs de crimes ou de délits, c'est des gens qui cherchent à manifester quelque chose et qui trouvent pas d'autre issue en fait. Moi, j'ai plutôt vu ça. Et c'est ça surtout qui m'a touchée. Alors, que ce soit du côté des victimes ou du côté des auteurs, voilà, des gens qui sont perdus dans la vie, en fait.
Et après.
Et après. Alors, c'est avec regret que j'ai quitté la police, mais voilà, ça faisait partie de mon chemin. Et comme pour tout changement, depuis que j'ai commencé à travailler, à me remettre en lien avec moi-même, c'était toujours pour le mieux. Après avoir rencontré mon compagnon de vie, on a décidé de partir à l'étranger. Et ben, la formation de policier en Suisse n'est pas forcément exportable comme ça. Mais comme j'avais fait mes formations à côté, en communication, en coaching, en programmation neurolinguistique, ben j'ai ouvert mon cabinet d'accompagnement. Les gens pouvaient venir avec tout ce qu'ils voulaient comme malheur. J'ai tellement vu l'autre face de la société, celle que les gens ne montrent pas habituellement. Voilà, les viols, les abus d'enfants, les meurtres, voilà, la maltraitance, etc. Qu'en fin de compte, je pouvais vraiment accueillir les gens avec leurs difficultés d'une manière sereine et posée, en fait. Ça a été vraiment une grande école de vie pour moi, cette période à la police. Très formatrice.
Donc encore une corde à votre arc, cette soif d'apprendre, elle ne vous a jamais quittée?
Non. Quand j'étais petite, je disais que si ça tenait qu'à moi, je serais à l'école toute ma vie. Moi, je crois que je me suis débrouillée pour le faire. Bon, j'ai une tête qui tourne vite, qui aime bien analyser, qui aime bien avoir à manger. Et d'ailleurs, ça a été problématique un certain nombre d'années dans ma vie parce que ça tournait trop là-haut. Je n'étais pas tout à fait en paix avec moi-même. Heureusement, j'y ai remédié. Voilà, donc il y a quand même eu des moments difficiles, justement, comme les personnes qui pensent trop, hein, beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance en soi, beaucoup d'égarement, voilà, d'une certaine forme de dévalorisation, de pas comprendre pourquoi on n'est pas dans le moule, pourquoi on est différent, etc. Et bon, maintenant, ça me fait rigoler, mais ça a été ma réalité, ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir comprendre les personnes qui sont dans cette situation et qui viennent à moi. Je peux leur donner de l'espoir, déjà ça.
Si on revient au niveau professionnel, vous avez effectivement, après, fait du coaching, de l'accompagnement, ce que vous continuez aujourd'hui à faire en parallèle avec le chamanisme?
Oui, je sais qu'il va falloir que je fasse des choix parce que j'ai beaucoup de demandes dans tous les aspects de mes différentes facettes. Pour moi, en fait, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je remets les gens en lien avec eux-mêmes. Et en fait, j'ai été amenée à m'associer avec un cardiologue. Donc, on a ouvert un cabinet de cardiologie et de gestion du stress. Donc, on voit des patients en commun, donc des personnes qui ont des problèmes cardiaques ou qui ont des symptômes cardiaques. Et dans certains cas, je propose un accompagnement là-dessus, où je travaille sur le niveau physique, sur le niveau émotionnel, sur le niveau mental. Et de façon moins évidente sur le côté spirituel, puisque je suis dans ce cadre-là. Et puis, je continue à faire des formations en gestion du stress, en prévention de burn-out. Voilà, ça fait par exemple plusieurs années que j'accompagne une association à l'île de la Réunion, une association qui ressemble à la main tendue ici, c'est SOS Solitude. Et donc, je fais toute la formation pour les bénévoles, des écoutants. Donc justement, des formations en communication, des formations en gestion du stress... voilà, de renforcer aussi leur propre stabilité personnelle pour pouvoir être à l'écoute des autres. Donc, pour moi, c'est toujours la même chose, en fin de compte. C'est recréer du lien, c'est recréer des relations saines, avant toute chose avec soi, puis ensuite avec les autres. I see
Chaman, c'était Morse.
Vie d'avant, vie d'après, les audacieux ont osé tout changer. Ils sont invités chaque après-midi sur la première.
Ingrid, dix mots de la vie d'après.
Liberté, amour, lien, bonheur, vie de rêve, partage, communion, travail, expansion.
Nous rencontrons Ingrid dans sa maison, où durant un week-end, elle a accompagné 6 participants à un voyage chamanique. Vous l'avez entendu, elle est archéologue de formation, elle a fait des études de lettres, s'est engagée dans la police scientifique, elle aimait avant tout l'humain. Et dans sa nouvelle vie, elle met les gens en lien avec eux-mêmes pour mieux vivre les relations aux autres. Elle le fait grâce au chamanisme et d'autres outils que son esprit curieux a appris. Mais tout cela ne nous dit pas comment la scientifique qu'elle est entrée dans le monde du spirituel et du chamanisme.
La manière dont je le dirais aujourd'hui, c'est très intéressant parce que notre vision des choses, elle évolue avec nous. Je dirais, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas l'être plus tôt? Et en fait, c'est clair que j'avais déjà en moi, petite, une force immense à disposition. Alors qu'aujourd'hui, maintenant je sais, c'est ce qu'on appellerait les esprits, etc. J'avais cette force à disposition et vraiment un grand sens du sacré. J'avais déjà cet instinct quand je voyais des gens qui étaient mis de côté, qui étaient, voilà, on sait comment ça se passe dans les cours d'école, celui qui est un peu différent, celui qui est un peu bizarre, celui qui, ou celle qui, je ne sais pas quoi, a des boutons, je sais pas. Et j'avais déjà cette force en fait de me mettre de ce côté-là et de soutenir la personne pour que le lien se refasse en fait entre les exclus et la société. Bon, c'est des grands mots là, mais ça se faisait tout naturellement quoi. Donc cette sensibilité, mais il combinait à une grande force parce que je connais aussi beaucoup de personnes qui sont très sensibles mais qui n'ont pas cette force à disposition. Et puis petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais je voulais être soit archéologue, soit astronaute. Et en fait, je voulais voyager dans le temps, dans l'espace. C'était déjà ça. Et ce que fait un chaman, en fait. Hein. Donc, le chaman, il fait tout ce que je viens de décrire, que je faisais déjà naturellement petite. Donc, de voyager à travers le temps, de voyager à travers l'espace, d'aller chercher de la force, d'aller chercher du sacré, puis de le ramener ici et de le mettre à disposition des personnes qui en avaient besoin. Donc, c'est très rigolo parce que maintenant, j'ai acquis cette vision alors que j'avais comme complètement oblitéré ça, justement avec l'éducation, avec le moule, avec la société, on se conforme, on apprend, on réfléchit, nanana, et on se coupe de tas de choses en fait. Et jusqu'à ce que, alors ça c'est comme je disais tout à l'heure, le grand classique des chamans, c'est qu'à un moment donné, on vit une maladie ou on vit une expérience qui va être proche de la mort. Donc moi, pour moi, c'était une très très grosse dépression avec tendance suicidaire. Je sais, tout le monde est étonné quand je dis ça parce que c'est pas du tout ce qu'on voit de moi aujourd'hui. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait tout bouger. Et c'est là que j'ai commencé à me reconnecter au chamanisme. Je dis reconnecter. Donc ça a commencé par un simple stage au tambour, avec une grosse, grosse frustration, parce qu'il ne se passait rien, et je ne comprenais pas, et tout le monde faisait des voyages, j'avais des visions, et moi, rien. Et en fait, c'est très rigolo, parce que c'était, ouais, viens creuser, il y a quelque chose pour toi. Et je pense qu'on a en fait tout ça quelque part en nous, sous une forme ou sous une autre. Hein. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est juste que moi, j'ai fait ce chemin-là, sous cette forme-là. Hein. Pour moi, il n'y a pas plus de valeur ou quoi, mais c'est une forme qui me correspond plus et donc à laquelle je suis un peu plus attachée. Mais voilà. Et donc, à partir de là, j'avais aussi fait de l'ethnologie, j'ai oublié de dire, durant mes études. Et donc, j'ai commencé à aller rendre visite à des peuples traditionnels, à leur poser des questions, à faire des... Enfin, les questions, vous pouvez leur poser, mais en général, dans ces cas-là, ils ne répondent pas parce que la connaissance est transmise de manière empirique. Donc, plutôt faire des expériences que de poser des questions. Et après, bon, vous avez du matériel et il faut dépatouiller tout ça. Alors ça, c'est vraiment aussi un gros, gros job de trier les informations, les expériences, de pouvoir croiser les choses. Alors, je fais aussi partie des gens qui n'ont pas un seul mentor avec une seule voix. Avec mon esprit de curiosité, de comprendre, etc., j'ai beaucoup apprécié d'explorer donc différentes traditions pour essayer de vraiment faire le tri entre la forme, entre ce qui appartient à leur culture et puis le fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce que c'est applicable. Et j'ai vraiment cherché à trouver un essentiel, ce qui me permet d'être, pour moi, hein, après, et pour les participants qui apprécient, une forme qui est applicable aujourd'hui ici en Occident. Et je pense que le chamanisme, en fait, c'est quelque chose de naturel. En fait, le chaman, c'est celui qui fait le pont entre le monde visible et le monde invisible. Alors, je peux vous dire qu'un certain nombre des personnes qui m'ont formée dans leur tribu, si vous les appelez chamanes, vous les vexez ou vous les fâchez. Le mot chamanisme, c'est un truc occidental. Ça, on oublie. C'est un truc occidental où des ethnologues ont pris un terme dans une tribu et ont commencé à poser l'étiquette sur tout le monde.
Donc vous êtes en fait, vous avez fait votre marché dans les possibilités, dans les possibles de par le monde, vous avez beaucoup voyagé et aujourd'hui vous avez adopté ce terme chaman parce que c'est celui qui nous parle.
C'est celui qui nous parle, c'est un terme aussi qui est très ouvert parce que comme il n'y a pas trop de connaissances ou de mental ou d'intellectualisation en Occident dessus, moi ça m'arrange aussi parce que ça permet qu'il n'y ait pas trop d'idées préconçues. Et pour moi, c'est aussi très important parce qu'il y a cette histoire de dépasser la forme ou les codes ou les attendus. Il y avait une participante ce week-end qui me dit « Ah, mais voilà, j'ai fait mon voyage cette nuit et tout. Mais ça ressemble pas à ce que j'ai lu dans tel livre et tel livre. » Et j'ai dit « Voilà, depuis que tu as commencé à travailler avec moi, je t'ai dit « Ne lis pas. » Ne lis pas. Parce qu'on a déjà tellement ça ici, ce savoir qui est inculqué depuis l'extérieur. Et après, quand ce qu'on vit à l'intérieur n'est pas conforme, on a la frustration, on a l'interrogation, on a le doute. Et en fait, non. Et surtout dans le chamanisme, surtout ne lisez pas. Soyez encore vierge de ça. Comme ça, ça vous permet vraiment de révéler les choses. Après, oui, on peut lire pour essayer de comprendre, parce qu'on veut en savoir plus. Mais vraiment, l'idée, c'est d'arriver comme un nouveau-né et dans la rencontre avec soi-même.
Mais vous-même, vous les avez connues, ces peurs, j'imagine, sur le trajet. Parce que, voilà, on passe pas d'une vie rationnelle, scientifique, occidentale, à ce que vous avez vécu, c'est-à-dire des semaines et des semaines au milieu de nulle part, avec des gens qui vous ont appris tellement de choses. Mais il y a eu forcément des peurs, par moments.
Des peurs, oui. Alors, je crois que j'en avais déjà pas mal dépassé avant. Je dirais, par exemple, tout le travail à la police aussi. On apprend aussi à avoir une certaine attitude et à affronter les choses et à y faire face. Et donc, je dirais que c'est pas des peurs rampantes, sous-jacentes, qui me rattrapaient ou je sais pas quoi. J'avais déjà développé une certaine attitude de guerrier par rapport à aller regarder les choses en face. Mais des doutes, oui. Des doutes, des questionnements, de pas comprendre, de pas me sentir à ma place, de pas savoir si j'ai pris le bon chemin, si je comprends bien ce qu'on veut me faire comprendre.
Est-ce que vous partiez seule dans ces moments-là?
Parfois, oui, ouais.
Avec une barrière de la langue, forcément.
Je suis en fait pas très très bonne en langue, mais finalement c'est pas tellement important, vous prenez un tambour, le langage est universel. Et vous regardez les gestes. Et de toute manière, les enseignements sont pas verbaux là-bas. On vous immerge dans l'expérience. Ça aussi, c'était très compliqué pour moi. Pendant longtemps, je cherchais un maître parce que j'avais lu qu'il fallait un maître et une voix et que ce serait le maître qui montrerait et tout ça. Et il y a une personne qui a vraiment pris ce rôle-là pour la première fois dans ma vie. Et donc, j'avais reçu un message donc des esprits qui me disait que je devais tout lâcher ma vie pour aller vivre un an avec lui, recevoir les enseignements. Et je lui ai parlé de ma vision et il m'a dit « je te prends comme élève ». Et en fait, quand je suis arrivée, ça c'était hyper dur pour moi parce qu'en fait, il ne me parlait pas. Il ne me parlait pas, puis moi je venais en petite occidentale. Bon, bah vas-y, explique.
Je prends des notes.
C'est ça, et en fait, pas du tout de cours à 8h15. Non, le cours c'était, je te mets en isolement dans la forêt, à une demi-heure de marche de toute personne. On te donne à manger deux fois par jour et voilà, et tu viens faire des cérémonies de temps en temps et on te donne des exercices à faire et puis c'est tout. Voilà. Donc ça c'est long, le temps peut être long.
J'allais vous dire, vous avez tenu combien de temps ?
J'ai tenu 6 mois. En fait, je vais pas dire j'ai tenu. Parce que j'ai tenu, ce serait comme un combat du mental ou je sais pas quoi, mais c'était juste pour moi d'y rester pendant 6 mois. À la fin, j'ai reçu le message que c'était bon. J'avais dû me préparer pour une année, donc de séparation avec mon compagnon, d'arrêt de mon travail, de partir de la maison, de quitter mes amis, ma famille, d'être au loin toute seule, justement dans un endroit où je parlais pas la langue. Puis voilà, au bout de 6 mois, la voie s'est ouverte et j'étais vraiment dans la joie de rentrer et de partager. Et voilà.
Alors justement, vous évoquez votre famille, votre compagnon, votre milieu professionnel ici. Il y a une question qui se pose toujours quand on change de vie, quand on est audacieux. C'est le regard qu'on pose sur ce parcours. Là, plus que jamais, je suis obligée de vous poser la question du regard qu'on a posé sur vous. Est-ce que vous avez osé verbaliser, dire... Voilà, je vais partir pendant X mois en isolement, c'était au départ pour une année. Vous avez osé dire tout ça ?
Bien sûr, mais j'en étais pas à mes débuts. Hein. Ils étaient déjà préparés. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent déjà que je suis pas forcément très conformiste pour beaucoup de choses. En fait, c'est pas tellement le regard des autres qui est le vrai obstacle, c'est le regard qu'on pose sur soi-même. Et tout le début de ma reconnexion avec le chamanisme, j'appelais ça ma voix secrète. Et notamment quand je travaillais à la police, enfin, je me voyais pas tellement dire, ouais, le week-end, je vais taper le tambour dans la forêt pour parler aux arbres. Voilà, alors peut-être maintenant il y a des collègues à moi de l'époque qui m'entendent et vont rigoler. Mais voilà, non, c'est plus le regard qu'on porte sur soi, mais à partir du moment où on est OK avec ce qu'on fait, le regard des autres n'a pas d'importance.
En même temps, il peut y avoir, quand c'est si fort, quand ça prend sa place, il y a forcément envie peut-être de partager, d'en parler, de s'ouvrir, de raconter. Vous le faisiez ou pas ?
Oui, bien sûr. Ah, j'ai pas eu de problème avec ça. On commence par les proches. C'est sûr que, par exemple, ça a fait peur à ma mère, ça a fait peur à mon frère. C'était pas évident pour mon compagnon. Mais à partir du moment où ils ont commencé à voir les résultats, voir que j'étais contente, que ça me parlait, etc. Alors là, c'était rigolo parce qu'ils ont eu... pas tous, ou chacun à leur mesure, mais l'envie de découvrir ce monde. Donc ils ont tous fait un pas dans cette direction, au moins pour voir ce que j'allais vivre, ou ce que je vivais, et ce que ça voulait dire pour moi. Et voilà, donc pour moi, ça veut dire que je l'ai fait correctement. Alors, il y en a qui ont continué dans cette voie, et d'autres pas. Mais c'est complètement accepté. C'est complètement accepté et reconnu.
C'est ça qui est audacieux, c'est que vous êtes passé d'un monde à l'autre, en même temps en restant connecté aux deux. Là, vous êtes dans les deux mondes, en parallèle et en permanence.
Mmh. Ouais, et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, je crois que c'est vraiment toujours ça, c'est d'intégrer en fait le plus de choses qui existent dans la réalité et dans la vie. Il n'y a pas un aspect plus juste qu'un autre. C'est la complémentarité qui va en faire la richesse.
14h, 15h, les audacieux sur la première.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger, léger. Du plaisir sans se retourner. ce plaisir ne m'allégeait pas. La beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plumes, ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place. Je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface. Délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées. Et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface.
En surface, c'était Étienne Dao et Dominique A.
Courage, détermination, sans doute un peu d'inconscience, ainsi sont les audacieux. Ils nous racontent leur histoire tous les après-midi sur la première.
Ingrid, quelle est votre définition du changement ?
La vie. Notre mental, il aime bien cloisonner les choses, les définir, les structurer, les retrouver de manière régulière. Et en fait, il fige le mouvement de vie. Le changement, c'est la vie. Essayer de résister au changement, c'est vraiment se couper de la vie.
Ingrid a beaucoup voyagé durant une quinzaine d'années. Elle est partie à la rencontre des traditions du monde entier pour découvrir le chamanisme. Aujourd'hui, elle a fait ses choix en mélangeant différentes sources et a adapté ses savoirs à la manière occidentale qu'elle propose dans différents cadres. Maintenant se pose une question taboue, celle de l'argent. L'argent que l'on gagne, ou pas d'ailleurs, quand on pratique le chamanisme.
C'est très intéressant l'argent. L'argent, moi je l'ai compris comme étant une énergie. À partir du moment où je travaille avec des esprits et des énergies, j'ai fait en sorte d'avoir de l'abondance dans ma vie. Alors ça paraît très New Age de nouveau. Mais par exemple, quand j'ai décidé d'accepter ma vision et de la suivre, j'avais pas tellement les moyens de partir, de m'offrir entre guillemets une année sabbatique. Donc j'ai dit ok, les esprits, vous me donnez une vision, une direction, faites en sorte que j'ai les moyens de réaliser ça. Et j'ai eu des contrats plus importants que d'habitude, hein, des grosses formations à donner en entreprise, justement sur la période qui était dans le délai en fait de mon départ. Mais ça fonctionne toujours à double sens, c'est-à-dire le monde invisible et le monde visible ne sont pas séparés. Si vous avez une réponse, hein, du monde des esprits ou du monde spirituel, il faut aussi tenir votre chance, c'est-à-dire vous pouvez pas refuser. C'est pas de dire juste je veux de l'argent et d'attendre en tendant la main. Donc moi j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là et je pense que ça c'est très très important. Moi je veux pas être une pauvresse. Si moi-même je suis pauvre, j'ai pas résolu ça. Comment est-ce que je peux accompagner des gens vers le fait qu'ils ont leur plein potentiel à révéler ? Et pour moi c'est une question qui est très importante. Alors par contre je fais pas du business avec le chamanisme et c'est aussi pour ça qu'actuellement j'ai encore à côté un job plus formel. Bien sûr, je fais payer parce que c'est un échange et les participants, pour eux, c'est aussi important de donner quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes encore avec cette idée romantique du chamanisme, on dit mais le chaman il soigne gratuitement. Et en fait, traditionnellement, il soignait entre guillemets gratuitement, mais la communauté subvenait à tous ses besoins. Donc il recevait de quoi manger, il recevait une tente, il recevait des habits. Voilà, et ici, il n'y a personne qui dit ben Ingrid, je vais faire des cérémonies, je te paye tes impôts. Moi, je serais d'accord. Ou de me dire, tiens, tu me fais un soin, moi je prends ton assurance maladie. Chamanisme, c'est égal à pragmatisme, quelque part. Mais le pragmatisme avec cette réalité du monde invisible.
Mais la scientifique que vous êtes, elle cohabite bien avec la chamane ? Parce que vous êtes quand même de formation scientifique avec des choses extrêmement...
Je le reste, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe depuis une vingtaine d'années. C'est que la plupart des sciences maintenant poussées dans leur domaine... rejoignent ou formalisent toutes les connaissances ou un bon nombre de connaissances qui étaient sues de manière empirique et notamment par les chamans.
Quand vous êtes parti, le début de ça, c'était une casse, c'était la perte d'envie de vivre que vous nous avez confiée tout à l'heure. Est-ce que justement cette découverte du chamanisme a guéri cette blessure et vous a redonné soif en la vie?
Oui, la réponse est oui, et clairement oui. Je me rappelle très bien que j'étais tellement fermée, je disais « j'aime pas les gens ». Je disais ça comme ça. Le monde était dur, le monde était un combat, j'avais pas ma place, etc. Et alors la réconciliation avec la vie, oui, et avec la mort en fait. Je pense que le travail en chamanisme, c'est de voir tous ces aspects de la réalité, comme je disais. Donc oui, la vie, oui, la mort, et aussi travailler avec la mort. Quand on a conscience de sa finitude, eh ben, on fait aussi des choix qui sont plus essentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être important? Si moi, je meurs dans 6 mois, ou si je pars, parce que c'est la même chose, si je pars à l'autre bout du monde, faire mon expérience, je ne sais pas trop ce qui va se passer, etc. Mais peut-être dans 6 mois, quand je reviens, il n'y a plus personne ou je ne sais quoi. Donc c'est aussi la finitude des autres, hein, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qui est essentiel? C'est le lien à l'autre. C'est d'être lié, c'est d'être en paix, c'est d'être voilà, dans l'amour, dans la générosité. Et puis il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est du bullshit, comme j'aime le dire. Ça vient de quand j'ai travaillé au Canada avec des tribus de là-bas. Il y en avait un, il me parlait tout le temps du bullshit. J'ai gardé l'expression. Mais oui, c'est ça.
C'est rien.
Je veux dire, d'arriver au travail à l'heure, d'être habillé comme si, d'avoir repassé sa chemise ou je sais pas. C'est du bullshit, tout ça.
Il y a quand même des moments où il faut se plier aux conventions sociales. Vous avez un métier qui vous oblige, j'imagine, à respecter des codes et à... Voilà, c'est pas trop dur?
Absolument pas, parce qu'il n'y a pas que ça.
C'est ça.
Et alors, je dirais, j'ai adoré l'expression que vous avez prise, il faut se plier. Alors là, c'est vraiment les trucs de normes, hein, c'est le côté hyper normatif. Et non, je ne dois pas me plier. Je choisis de rentrer dans une certaine forme pour pouvoir être en communication et en lien avec l'autre. C'est très différent pour moi.
Est-ce que ça vous a changé?
Alors, j'aime bien dire oui et non, comme toujours en fait, parce que les choses sont à la fois très simples et bien plus interconnectées que ça n'y paraît. Je n'ai pas changé, ou alors je suis devenue plus moi-même, mais en même temps, c'est plus quelque chose d'intérieur que d'extérieur. Voilà, c'est pas parce que je fais de la méditation que j'ai arrêté d'être dynamique, c'est pas parce que je travaille avec l'invisible que je m'occupe pas de faire la vaisselle. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le côté où c'est plus de complétude pour rejoindre Jung, plus de complétude.
Justement, je tente un autre mot, c'est l'audace. C'est un mot que vous aimez?
Oui, je l'utilise pas très souvent, mais je crois que ça fait aussi partie de mon énergie. Justement, de dépasser certaines choses, de décloisonner, etc. D'aller au-delà de ce qu'on croit être nos limites, de ce qu'on croit qu'on doit être, ou de ce qu'on croit qu'on est appelé à être, ou du fait qu'on puisse pas vivre la vie de ses rêves, ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui était absolument vrai pour moi à l'époque, et qui est absolument faux pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on me dit « mais c'est quoi la vie de tes rêves ?» Je dis « mais c'est celle que je vis aujourd'hui ». C'est pas pour vendre des papillons, quoi. Donc, manger des graines d'audace tous les jours, hein. Je vous encourage à le faire. Ça, c'est une sacrée médecine de chaman.
Ingrid est décidément un drôle de numéro entre deux mondes. Une scientifique devenue chamane qui aime brouiller les pistes, dépasser les codes, mais aussi nous éclairer. Elle nous prescrit l'audace, on en reprendra une dose demain, à la même heure. Merci à elle et tous les participants du stage qui ont bien voulu me faire partager un peu de leur voyage entre ici et là-haut.
Les Audacieux, une émission de Florence Farion et David Golland, rythmée par les musiques de François Piton. Vos remarques, vos messages via notre page Les Audacieux sur le site rts.ch.
Il est 15h.